Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci d'avoir choisi les fréquences des radios partenaires de Studio Tamani pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bonjour et bienvenue à cette édition dont voici les titres. Un projet de réponse humanitaire d'urgence en faveur des régions de Gao, Tombouctou, Mopti a été lancé hier à Bamako. Il interviendra dans le domaine de l'agriculture et la santé. La région de Bougouni est une zone qui regorge d'importantes ressources minières. Les acteurs miniers se réjouissent de l'impact de cette richesse sur l'économie de la région. La plateforme verte des femmes de la Grande Muraille Verte a été lancée la semaine dernière à Bamako. Objectif, accompagner les femmes à faire face aux défis liés au changement climatique. Voilà pour le sommaire de le développement dans un instant avec Imran Akilomaïga, la mise en onde Gagné Kanté. Mais avant cette nouvelle, l'état-major général des armées du Mali a confirmé hier soir la mort d'Abu Huzaifa Dihuigo au cours d'une opération de grande envergure menée le 28 avril 2024 dans le secteur de Indelimane. Il s'agit selon lui d'un important chef terroriste de nationalité étrangère impliqué dans de nombreuses attaques. On peut citer entre autres plusieurs exactions sur des populations civiles innocentes, des attaques contre les forces armées des pays de l'AS, Alliance des États du Sahel et des forces étrangères. La même source rappelle que la tête d'Abu Huzaifa avait été mise à prix à 3,4 milliards de francs CFA, soit 5 millions de dollars par le département américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tongo Tongo au Niger en octobre 2017. Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations affectées par les crises sécuritaires et alimentaires, c'est l'objectif visé par le projet de réponse humanitaire d'urgence dans les régions de Gao, Tombouctou et Mopti. Il est financé par la fondation Bill and Melinda Gates à 600 000 dollars américains, soit 367 millions de francs CFA. Ce programme est dirigé par Luveran World Relief en collaboration avec ses partenaires. La cérémonie de lancement du projet s'est déroulée ce lundi 29 avril 2024 à Bamako. Moussa Malé Sissoko.
La directrice pays de l'Ethereum World Relief explique que ce projet de réponse humanitaire d'urgence intervient dans 5 cercles et 9 communes des régions de Gao, Tombouctou et Mopti. Madame Hazara Ouedraogo rappelle que les activités ont démarré depuis décembre 2023 pour une période d'un an.
Le volet résilience qui est réalisé dans la région de Mopti, c'est à ce niveau que nous faisons la distribution de semences de riz et de semences maraîchères pour permettre aux agriculteurs de pouvoir relancer la campagne agricole. Donc, au niveau de Gao et Tombouctou, c'est la prise en charge de la malnutrition des enfants de 0 à 23 mois et aussi aider les familles de ces enfants-là.
La mise en œuvre de ce projet dans ces régions est assurée par les services techniques et des partenaires. Il s'agit de l'Association pour le développement du Nord, ADENOR, et la Fédération des unions des coopératives.
On n'a pas beaucoup de difficultés en réalité sur le terrain avec une mobilisation des bénéficiaires.
Ils ont donné de la semence maraîchère, de la semence du riz. Nous, on a beaucoup apprécié.
Ce projet aide à la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée dans les districts sanitaires de Tombouctou à travers la dotation des enfants malnutris en intrants nutritionnels.
Rappelons que l'Ethereum World Relief intervient dans le domaine de l'assistance humanitaire, développement économique, santé, nutrition et de recherche au Mali.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X anciennement Twitter. Après l'agriculture, Bougouni est une région à vocation minière. Le sous-sol de la région regorge de précieux minéraux dont le diamant et l'or. L'exploitation de ces richesses minières a des impacts importants sur la croissance de l'économie de la région que sur l'augmentation de l'insécurité et la corruption. C'est du moins ce qu'avancent certains acteurs du secteur minier de la région. Des éléments de réponse dans ce reportage de notre envoyé spécial de retour de Bougouni, Lalaïcha Ouellet Infa.
Abdoulaye Koulibaly est un leader communautaire natif de la région de Bougouni. Selon lui, l'exploitation des ressources minières est bénéfique pour la communauté locale. Et cela malgré quelques aspects néfastes.
À Gualamina, là où il y a lithium, on ne peut pas faire une semaine sans en engendrer un conflit. Il y a aussi une dépravation des mers. Il y a la non-maîtrise des informations sur le code minier qui fait que les populations riveraines ne bénéficient pas assez de ces mines-là. Aussi, il y a la vie chère. Et sur le plan environnemental, c'est encore pire. dire.
Pourtant, pour le président de la société civile, Boubou Kabé, les habitants de la région profitent bien de ces ressources minières. Selon lui, l'exploitation minière de la mine de lithium promet un avenir meilleur pour la région.
Pour les villages impactés, le lithium de Mourilal et de Galaminal a investi près de 300 millions de francs CFA pour donner de l'eau potable aux populations. Ils ont mené des études par rapport à la santé, par rapport à l'agroécologie. Mais pour le moment, c'est l'emploi des jeunes. Ils payent des taxes, des impôts et des patentes.
À noter que la région de Bougouni vient en deuxième position après celle de Kaï en exploitation minière. De retour de Bougouni, Lala Aïcha Walet Infa pour le studio Tamani.
Lancement ce jeudi 25 avril 2024 de la plateforme verte à des femmes de la Grande Mireille Verte. Cette plateforme est une initiative de l'Agence panafricaine de la Grande Mireille Verte et le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable avec l'appui financier du Programme alimentaire mondial. L'objectif de cette plateforme qui a pour slogan « Agir aujourd'hui pour demain » est d'accompagner les femmes à mieux faire face aux défis du changement climatique. Le compte-rendu de Moussa Agmaha.
Cette plateforme, selon Brahima Saïd, secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Mireille Verte, ambitionne d'accompagner les structures nationales dans les processus de mise en œuvre de la Grande Mireille Verte.
Elle doit dans ce cadre assurer l'encadrement, servir d'interface et être représentante de nombreuses femmes qui n'ont pas accès aux sphères de décision pour traduire en réalité et par des actions concrètes les orientations de l'objectif du développement durable.
De son côté, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille estime que cette plateforme pourra jouer un grand rôle dans la sensibilisation des femmes du Mali.
Les femmes qui vont constituer cette plateforme, leur dire de s'investir davantage pour lutter contre tout ce qu'il y a comme phénomène de changement climatique et qui nuit considérablement aux populations. Comme vous pouvez le savoir, ce sont généralement les femmes, les enfants qui sont les premières victimes du changement climatique. Ce sont les femmes qui profitent en premier lieu de l'environnement.
Il faut noter que la cérémonie de lancement a enregistré la présence des représentantes des organisations des femmes des pays voisins comme le Sénégal, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso et la Mauritanie.
Le crépissage de la grande mosquée de Mopti a eu lieu ce dimanche 28 avril 2024. Cet exercice, qui se tient une fois par an, a débuté depuis 1864. Il permet non seulement de revêtir la mosquée couverte de nouvelles boues, mais aussi de rendre l'édifice plus résistant. Le crépissage de la mosquée est aussi un moment de cohésion sociale entre les communautés de Mopti. Notre correspondant Mamadou Komina nous fait vivre ces moments.
C'est dans cette ambiance que des personnes âgées, des jeunes et femmes de Mopti se sont retrouvées ce dimanche pour crépir la grande mosquée. Pour Ibrahim Konaké, organisateur, c'est une vieille tradition perpétuée par les Mopticiens.
C'est un héritage. On a trouvé que nos parents faisaient ça. Ils les faisaient dans la joie et dans la convivialité et pour l'amour pour ce pays.
Lui, c'est un métier qu'il perpétue. Il s'agit de Mokhtar Niafo, chef de maçon. Il nous explique les ingrédients utilisés pour la confection de la bouillie.
On prépare en avance les bancos. C'est fait avec de l'eau, du riz et du sable. Le crépissage protège la mosquée contre la pluie et les intempéries. L'habillage de la mosquée, c'est avec la boue et nous constatons que la mosquée est protégée après le crépissage.
Les femmes occupent aussi une place dans le processus de crépissage. Ma Traoré est une participante.
Depuis que je suis jeune fille, je participe au crépissage. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Nous amenons de l'eau, banco et du sable, c'est ce que nous faisons pour aider.
La grande mosquée de Mopti a été construite en 1864 et depuis cette date, les populations se réunissent chaque année pour sa restauration. Mopti, Mamadou Komina pour Studio Tamani.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Dans notre rubrique Zoom sur d'aujourd'hui, nous braquons nos projecteurs sur une catégorie de gens. Il s'agit de ceux-là qui ne savent pas manger avec fourchette et cuillère, mais s'entêtent à les utiliser quand ils sont dans les restaurants. Le compte-rendu avec Fatih Attara.
Au restaurant, beaucoup de gens veulent ressembler aux messieurs de la grande ville, les civilisés, les branchés, comme on l'a dit. C'est le cas de cet homme qu'on va nommer Abdul Karim Maïga qui s'est rendu au restaurant avec sa cousine. Pour faire comme les messieurs branchés, il tente de manger son poulet à la fourchette et au couteau, alors qu'il sait pertinemment qu'il n'a jamais si bien utilisé ces objets à la maison. C'est le début d'une lutte avec le poulet, bien que celui-ci soit mort. Dès qu'il a essayé de couper un morceau, le plat s'est renversé. Et tout l'entourage regarde subitement dans la direction d'Abdul. Beaucoup éclatent de rire, pendant que d'autres font semblant de compatir et les regardent avec peine. Sa cousine ne l'a pas raté comme le font généralement les cousins entre eux. Gawake Flesa, autrement dit, regardez-moi ces villageois. Mange à la main, s'écria-t-elle. Et notre voisin de table mangeant à la main l'invite à faire comme lui. Joe, ante tubabouye, anganga dumni dumnantegeche, qui veut dire, mangeons à la main, nous ne sommes pas des blancs. Mais si Maïga n'a point répliqué, tellement gêné qu'il s'est juste levé de la table et est parti. Ils sont nombreux des gens comme Maïga qui sont impressionnés une fois dans les restaurants et se mettent dans l'air peau des mégalomanes. Comme le dit l'adage, le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile, alors que chacun évolue selon sa culture.
Merci Fatih Yatera. Ainsi se referme à ce journal qui vous a été présenté par Imran Akilo Maïga. Merci de l'avoir suivi. La drogue demeure un véritable fléau au Mali, selon le secrétariat permanent de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre les stupéfiants. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'usage de la drogue a causé la mort de 139 personnes en 2020 au Mali. En février dernier, trois jeunes de la région de Gao, au nord du pays, sont décédés après avoir consommé ces produits. Le sud du pays n'est pas aussi épargné. Les stupéfiants font aussi des ravages au sein de la couche juvénile dans les régions de Sikasso et Kai. La mort d'un adolescent à Bamako est également associée à la drogue. Alors comment lutter contre la drogue au Mali? C'est le thème de ce numéro du magazine Gouvernance et Citoyenneté. C'est une réalisation de Ali Cissé.
La flambée du taux de consommation de la drogue dans la région de Gao inquiète les populations de la cité des Askia. Des affrontements avec des armes blanches y sont également signalés. Toutes choses dénoncées par les riverains. Dans ce reportage de Halima Yatara, ils interpellent les autorités pour mettre fin à ces dérives.
Selon les habitants, les plages doivent être des lieux de loisirs et de détente, et non des lieux de dépravation des mœurs.
Ces jeunes doivent savoir qu'ils sont les futurs parents. C'est pourquoi donc, ils doivent éviter ce genre de comportement.
Très inquiétant.
Nous demandons auprès des autorités d'essayer de réglementer cela.
C'est une situation préoccupante, indiquent les responsables du Conseil communal de la jeunesse. Moussa Boukar, président du Conseil communal de la jeunesse de Gao.
C'est des héritages qui nous ont été légués par nos parents. D'ailleurs, nous, notre plage a même une histoire. Il est de notre devoir en tant que jeunesse de jouer pleinement nous notre rôle.
À noter que la transgression des mœurs ne profite à personne et ces genres de comportements doivent être combattus.
Les stupéfiants ne font pas des ravages que dans le nord du Mali. À Kadiolo, ville située à 10 km de la frontière ivoirienne, la drogue est en train de nuire aux jeunes, comme en témoignent les habitants de la localité. Ils demandent aux parents de se donner la main afin de circonscrire au phénomène.
La mission, elle est noble, elle est bien, si dans la mesure où elle se passe dans les règles de l'art. Les vendeurs de stupes, ils n'ont plus peur de ces gens-là.
Certains enfants se cachent pour prendre les stupéfiants, contrairement à d'autres. Nous qui sommes les parents, nous devons être solidaires à ne pas créer des différences, apprenant à corriger les enfants quand ils ne se comportent pas bien. C'est la seule solution pour moi pour que les enfants apprennent à renoncer aux mauvaises pratiques.
Il n'existe à ce jour aucune politique nationale de lutte contre la drogue au Mali. Mais selon le colonel Ismaïl Makalou, secrétaire permanent de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre les stupéfiants, l'acheminement, la vente et la consommation des produits psychotropes dans les pays sont soumises à des conditions.
C'est le secrétaire permanent qui a la légitimité d'établir les permis d'importation de stupéfiants et substances psychotropes, de contrôler l'entrée et la répartition et l'utilisation à tous les stades, d'endosser les certificats d'autorisation d'importation, d'exportation et de tenir à jour la liste des personnes et établissements autorisés à détenir, fabriquer ou commercialiser les stupéfiants et les substances psychotropes. Et veiller aussi au stockage et à la destruction des produits stupéfiants saisis.
Selon des observateurs, Misira et Bagadadji sont deux quartiers de Bamako réputés pour la vente de produits stupéfiants. D'ailleurs, à Bagadadji, un jeune a été poignardé à mort par son ami le 6 avril dernier. À la question de savoir comment la drogue atterrit dans la capitale et dans les différentes régions du Mali, malgré les mesures prises, le colonel Ismaïl Makalou de la mission interministérielle de lutte contre la drogue donne des explications.
Ces gens aussi s'adaptent à tous les mécanismes, quel que soit le mécanisme mis en place par le service de répression pour lutter contre ces fléaux. Ces gens trouvent le moyen. Derrière aussi cette problématique des drogues se cache aussi quelque chose de registre. C'est pour cela, c'est un combat de longue haleine et c'est un combat qui va s'étendre sur la temporalité, sur la durée. Et c'est pour cela, il faudrait que tout le monde puisse s'associer pour qu'on puisse bouter à la touche quand même ces fléaux.
En plus de l'élaboration et de la validation d'une politique nationale de lutte contre les stupéfiants, la MILD créée en 2015 a aussi pour mission de créer des centres de traitement spécialisés dans le cadre de la prise en charge des troubles liés à la consommation de drogue au Mali.